Voilà, c'est une grâce que Dieu ait laissé pour les humains un temps dans la semaine, un temps pour se reposer et penser aux choses éternelles. Le Seigneur lui-même s'est reposé le septième jour et qui nous donne la grâce de profiter pleinement de ce temps pour nous plonger dans la parole, pour nous détacher un peu des choses qui passent. Vous avez vu comment les éléments se sont déchaînés et peuvent bouleverser des vies. Eh bien, ces temps sont bons qu'on s'arrête pour penser à autre chose qu'aux choses de la terre et penser aux choses de Dieu. On a beaucoup parlé de la Pentecôte ce matin et nous allons encore reparler. Le Seigneur laisse pour nous dans sa parole de quoi nous rappeler tout le temps ce qu'il a fait pour que nous n'oublions pas et que nous confions en lui. Le livre des Actes des apôtres nous parle de la façon dont les apôtres ont été conduits par l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance du Saint-Esprit va changer radicalement la vie des apôtres, va changer leur service, mais aussi la vie des auditeurs qui ont accepté la parole de Dieu dans leur cœur. 120 hommes, sans moyens financiers extraordinaires, sans une grande culture, sans une logistique bien rodée, sans tout ce que nous estimons nécessaire pour mener à bien une œuvre, vont bouleverser le monde d'alors parce qu'ils se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. La même puissance de l'Esprit-Saint est à notre disposition aujourd'hui, si nous prêtons attention à la parole de Dieu et si nous confions en lui. Alors je vous invite à prendre Actes chapitre 2 pour voir ce moment de la Pentecôte où l'Esprit est descendu d'en haut et a rempli les croyants qui étaient là. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Actes chapitre 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ?» Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous dans nos langues, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Eh bien, regardons de peu plus près cette Pentecôte et on voit tout d'abord que dans ce texte, l'action souveraine de Dieu, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Les disciples ont passé du temps dans la prière, ils ont attendu la venue du Saint-Esprit comme le Seigneur leur avait commandé dans Actes chapitre 1, verset 4. Ils n'ont pas quitté Jérusalem, on a lu le texte de Luc, chapitre 24, Jérôme a lu. Ils n'ont pas non plus essayé de prendre en main l'évangélisation avec leur propre force, avec leur sagesse, avec leurs idées. Mais ce ne sont pas leurs prières, ni leurs attentes, qui ont poussé Dieu à envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus leur haut niveau spirituel. Parce qu'à l'époque, on priait plutôt debout ou à genoux. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est que c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit au moment et de la façon qu'il a choisie. Ce ne sont pas les hommes qui décident. Ils ne prient pas pour que Dieu envoie le Saint-Esprit, l'ordonnant, le suppliant d'envoyer le Saint-Esprit. C'est Dieu qui le fait souverainement. Et remarquez que ça se fait uniformément. Il n'y a pas un qui en a plus que d'autres. Ça se fait uniformément et ça vient d'en haut. C'est Dieu qui fait cette opération. Alors à quel moment on a lu ça à la Pentecôte? La Pentecôte, ça se célébrait 50 jours après la Pâque. C'était une fête juive qui était aussi appelée la fête des semaines dans Exode 34 ou dans Exode 23, vous verrez cela. Dieu envoie l'Esprit Saint en suivant le modèle des fêtes juives établies dans l'Ancien Testament et non en réponse à une quelconque activité humaine ou à une quelconque prière humaine. Vous pouvez prendre avec moi Lévitique 23 juste pour avoir un peu les trois fêtes dont je vais parler dans Lévitique 23 qui retracent l'œuvre de Jésus-Christ. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ et nous devons lire l'Ancien Testament pour notre profit, pour notre instruction. Lévitique 23. Vous avez le texte devant les yeux. Donc, tout d'abord, la première fête qu'on voit, c'est la Pâque. 23, 4, verset 4. On voit l'Éternel, je commence au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » C'est comme lorsqu'on vit en culte, c'est comme si Dieu nous convoque aussi. Il nous appelle à venir le louer ensemble. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alors la première fête, voilà, c'est la Pâque, la fête des pains sans levain. La Pâque, il y avait le sacrifice de l'agneau pascal. Et cette fête symbolise la mort de Christ. La deuxième fête, on la trouve au verset 9, Lévitique 23, 9. C'est la fête des prémices ou la fête des pains sans levain. Elle était célébrée le lendemain de la Pâque. En offrant les prémices de la moisson, cela symbolisait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, la mort du Seigneur, la fête des prémices, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le Seigneur et les prémices de tous ceux qui sont morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Et finalement, la troisième fête, la Pentecôte, célébrée 50 jours après la Pâque, et nous trouvons cette fête au verset 15 de Lévitique 23. Et donc, on faisait une autre offrande des prémices. Et les prémices, ça nous parle de quelque chose, les premiers fruits. L'Esprit est venu le jour de la Pentecôte comme les prémices de l'héritage des croyants. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, nous lisons « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Dans Éphésiens aussi, on nous a dit qu'on est scellé du sceau de l'Esprit, qui est un gage de notre héritage. Ce sont les premiers fruits. Dieu nous donne la jouissance déjà, ici-bas, de ce qui nous attend en haut. Mais les prémices aussi, voir tous les croyants réunis là, être remplis du Saint-Esprit, c'est aussi les prémices de toute la moisson des croyants à venir, qui seront aussi baptisés du Saint-Esprit et qui vont être inclus dans le corps de Christ. Ainsi, Dieu envoie l'Esprit Saint à la Pentecôte, suivant le modèle des fêtes célébrées dans l'Ancien Testament, en Lévitique 23, et non en réponse à une quelconque activité humaine. De quelle façon l'Esprit descend du ciel? On voit que, on lit ça, je reprends Actes chapitre 2, on nous a dit que tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ça devient comme d'une façon surnaturelle, un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'apôtre est obligé d'essayer d'employer des mots pour expliquer cela. Et ça ne vient pas de la terre, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit, c'est pas les hommes, c'est Dieu. D'une façon audible aussi, un bruit comme celui de vent impétueux, d'une façon visuelle aussi, puisque des langues, semblables à des langues de feu, vont se poser, leur apparure, séparées les unes des autres. Et seuls les croyants qui sont dans la maison sont baptisés de l'Esprit. Ils sont unis en un seul corps spirituel, le corps de Christ. Ils sont aussi ce jour-là remplis de l'Esprit, parce qu'ils peuvent parler des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Voici donc des preuves de la venue du Saint-Esprit. Il a manifesté sa présence aux oreilles, aux yeux et par la bouche des croyants. Alors, on voit dans Actes chapitre 2, versets 2 à 3, que l'Esprit est venu. Mais l'Esprit était déjà actif avant le jour de la Pentecôte. On sait qu'il était actif lors de la création du monde. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Il était actif aussi tout au fil de l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, dans Samuel. Il est aussi actif dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. On lit ça, bien sûr, dans les évangiles et dans les actes. Mais ici, il y a un changement radical, un changement qui a lieu à la Pentecôte. L'Esprit ne descend pas seulement sur les hommes. Désormais, il va habiter en eux de façon permanente et non plus de façon temporaire. Et Jérôme, on a lu... il me semble Jean chapitre 14, versets 16 à 17, où on a parlé de cela. Il nous a dit qu'on peut prendre Jean chapitre 7. Prenez avec moi Jean chapitre 7. Pourquoi l'Esprit ne pouvait pas venir avant? Eh bien, la réponse nous est donnée. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on peut tourner la page dans Jean chapitre 16. On reprend Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Voilà. Christ ne pouvait pas venir plus tôt parce qu'il fallait que Jésus-Christ meure, qu'il ressuscite d'entre les morts, qu'il aille au ciel et qu'il envoie le Saint-Esprit qu'il avait promis, et il a tenu ses promesses. Et souvenez-vous des trois fêtes qu'on a vues dans Lévitique 23, la Pâque, la mort de Christ, la fête des prémices, la résurrection et la Pentecôte, les prémices de l'héritage des croyants, la venue du Saint-Esprit. L'Ancien Testament parle de l'œuvre de Christ et nous avons intérêt à lire l'Ancien Testament pour connaître encore mieux ce qui concerne Christ. Prenons par exemple Luc chapitre 24 pour voir cette importance de l'Ancien Testament. Luc chapitre 24. Alors nous sommes là avec les disciples d'Emmaüs qui étaient tout attristés de la mort du Seigneur. Alors on commence au verset 24, Luc 24, 24. « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ, n'ont pas trouvé le Seigneur. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » L'Ancien Testament parle de Christ, et si nous avec l'Esprit du Seigneur, dans l'humilité, le Seigneur nous montre son œuvre et sa personne dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est venu et il y a eu trois signes extraordinaires qui ont accompagné sa venue. Le bruit d'un vent violent, des langues de feu et la louange aussi dans des langues étrangères. Et on voit aussi que l'Esprit a baptisé. Dans Actes chapitre 1, verset 5, on peut prendre cette référence. On lit à partir du verset 3, juste un peu avant notre chapitre. Actes chapitre 1, verset 3, après qu'il eut souffert, j'attends. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a unis en un seul corps spirituel, le corps de Christ. Dieu a scellé les croyants, il les a reliés à la tête de l'Église, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Il a constitué le corps de Christ sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et suivant. Historiquement, le baptême du Saint-Esprit a lieu à la Pentecôte. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un se donne au Seigneur, il est baptisé du Saint-Esprit. Il est inclus dans le corps de Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande après la conversion. Si on est enfant de Dieu, on est baptisé du Saint-Esprit. Dieu nous inclut dans le corps, dans l'Église. On voit aussi que l'Esprit a rempli les croyants parce qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc on revient au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce même jour, ils ont été à la fois baptisés et remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu ne nous exhorte pas à chercher le baptême de l'Esprit. Parce que c'est un acte que Dieu accomplit une fois pour toutes lorsque le croyant se donne à Christ. Par contre, la Bible nous demande d'être rempli du Saint-Esprit, d'être toujours rempli du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, parce que nous avons besoin de la puissance de l'Esprit pour faire la volonté de Dieu, pour servir Dieu efficacement. À la Pentecôte, donc, les chrétiens ont été à la fois baptisés du Saint-Esprit, ils ont formé le corps de Christ, et ils ont en même temps été remplis du Saint-Esprit, ils ont été capables de parler dans des langues étrangères. Mais plus tard, ils ont été de nouveau remplis du Saint-Esprit, on voit ça dans les Actes, Actes chapitre 4, chapitre 9 et suivant, mais ils n'ont pas connu d'autres baptêmes du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit signifie que nous appartenons au corps de Christ. La plénitude de l'Esprit signifie que notre corps lui appartient. Le baptême de l'Esprit est définitif, il ne se reproduit pas. La plénitude de l'Esprit se reproduit lorsque nous appuyons sur le Seigneur et le laissons diriger notre vie. Le baptême implique tous les autres croyants, car il nous unit au corps de Christ, les uns aux autres. La plénitude, elle est personnelle et individuelle. Tous les croyants sont baptisés de l'Esprit Saint, mais tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et on voit ensuite que non seulement l'Esprit est venu, il a baptisé, il a rempli, mais il a aussi parlé. Les croyants, remplis de l'Esprit, louaient l'Éternel, parlaient des merveilles de Dieu. Ils parlaient des langues étrangères, des langues connues, parce que Luc cite 15 lieux géographiques différents dans Actes chapitre 2 et précise que les habitants de ces régions ont entendu les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'était la langue de leur pays et non une langue étrangère. Une langue inconnue. On peut se rappeler un peu, essayer de faire un parallèle entre ce prodige de la Pentecôte où les croyants parlent des langues de divers pays avec l'épisode de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel ? À Babel, il y a une sanction. Dieu a confondu les langues et les peuples ont dû se disperser. À la Pentecôte, il y a une bénédiction au contraire. Dieu a uni les croyants dans l'esprit. Après Babel, les gens étaient incapables de se comprendre, ils avaient des langues différentes. Mais à la Pentecôte, les hommes ont entendu et compris les louanges adressées à Dieu. Tous ceux qui étaient là ont dit, mais Oh, comment est-ce qu'ils parlent? Et ces Galiléens, qui étaient considérés comme des gens peu instruits, comment est-ce qu'ils parlent comme ça des merveilles de Dieu, chacun de notre langue? Ils ont compris. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. La tour de Babel était construite pour glorifier les hommes. Les hommes voulaient s'élever jusqu'au ciel, être comme Dieu. La Pentecôte, au contraire, était un acte pour glorifier le Seigneur. Le Seigneur a été glorifié. Sa volonté s'est accomplie. Enfin, la construction de la tour de Babel était un acte de rébellion. Dieu avait demandé aux hommes d'occuper toute la terre. Ils ont, au contraire, ils se sont regroupés, ils ont voulu construire cette tour. Tandis que la Pentecôte est un acte de soumission à Christ. Le Seigneur avait dit, attendez là et vous recevrez le Saint-Esprit. Ils ont obéi et l'Esprit de Dieu est venu. Quelle différence, quel contraste, Babel un jugement, la Pentecôte une bénédiction. Les disciples parlaient donc d'autres langues, des langues étrangères, parce que l'Évangile devait être annoncé au monde entier, à Jérusalem, dans la Samarie et dans la Judée, et jusqu'aux extrémités du monde, on dit Actes chapitre 1, verset 8. Il fallait que chacun entende dans sa propre langue le message du salut en Jésus-Christ. Et la venue de l'Esprit n'est pas restée sans effet. On voit que les signes surnaturels ont attiré une foule, des Juifs cultivés en pèlerinage, et à ce moment-là, il y avait beaucoup de Juifs à Jérusalem. Eh bien, ils sont surpris de voir des Galiléens, des gens sans instruction, parler des merveilles de Dieu. Et le Saint-Esprit prépare ainsi la proclamation de l'Évangile. Et c'est la suite de notre chapitre qui nous parlera de ça, le sermon de Pierre, dans Actes chapitre 2, versets 14 à 41. Alors, ce sermon est un témoignage rendu aux perdus. Et c'est un sermon qui s'adresse d'abord aux Juifs. On lit, verset 14, alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Et donc, les juifs, les prosélytes, c'étaient des non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme. Le salut devait être d'abord annoncé aux juifs, et plus tard aux païens, chapitre 10 des Actes, Corneille et les autres. Voilà. Donc, dans ce sermon, Pierre va donner trois explications. Mais quand on lit le sermon de Pierre, et juste au verset 41, on voit que Pierre utilise l'Ancien Testament pour parler des choses de Dieu. Le Seigneur avait apparu aux apôtres, il les avait parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. On voit dans ça, dans Actes chapitre 1, verset 3, la fin du verset 3. On voit que les disciples d'Emmaüs aussi, découragés, le Seigneur leur a parlé de tout ce qui concerne Christ en leur montrant depuis Moïse jusqu'au prophète ce qui le concerne. Et donc Pierre avait certainement été instruit aussi des choses de Dieu par le Seigneur lui-même et l'Esprit aussi l'aide à discerner dans l'Ancien Testament les choses qui concernent Christ. Alors, Pierre va dire tout d'abord que ces gens ne sont pas ivres parce qu'il faut savoir que le jour du sabbat, ou les jours de fête religieuse, les juifs ne consommaient pas de nourriture ni de boisson avant 9 heures. Et ils ne buvaient pas de vin en dehors des repas. Donc ils ne pouvaient pas être ivres à cette heure-là. Donc Pierre reprend cette prophétie de Joël. Et il ne dit pas que la Pentecôte est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Cette prophétie concerne la nation d'Israël pour les temps plus reculés, pour la fin des temps, dans le cadre du jour de l'Éternel. D'ailleurs, on voit que les signes et les prodiges, le soleil se change en ténèbres, la lune en sang, c'est pas arrivé ce jour. Mais l'Esprit, en fait, conduit Pierre à voir dans cette prophétie une application pour l'Église. Et il dit en résumé, c'est le même Esprit Saint qui a été évoqué par Joël. Il est ici. C'est une révolution, un changement radical. Les Juifs pensaient que l'Esprit de Dieu n'était qu'accordé qu'à une petite élite. Quelques personnes triées sur le volet. Dans Nombre chapitre 11, verset 28 à 29, on voit cela. Mais voici ici que 120 personnes, 120 de leurs compatriotes, des hommes, des femmes, étaient remplis de cet esprit qui avait habité à la fois Moïse et les prophètes. On peut dire, dans une certaine mesure, comme le dit la prophétie de Joël, que Israël arrivait à ses derniers jours. Jésus avait accompli l'œuvre de rédemption. Il ne restait plus qu'à partager la bonne nouvelle, d'abord à Jérusalem, mais bien sûr aux autres nations. L'invitation était la suivante, quiconque, à la fin de la prophétie, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Pierre explique ce qui se passe. L'Esprit est descendu. En prenant cette prophétie, il montre aux éditeurs que l'Esprit, là, il est ici. Le même Esprit dont parle Joël, le voici, il est là. Après avoir expliqué ce qui se passe, la venue du Saint-Esprit, Pierre va donner une deuxième explication. Et les versets, nous lisons ça, les versets 22 à 36. Pierre va expliquer comment cela est arrivé. Pourquoi l'Esprit est venu? Eh bien, parce que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est vivant et il a pu envoyer le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes qui étaient là avaient entendu parler de Jésus-Christ. Ils avaient entendu parler de son arrestation, de son procès, de sa crucifixion. Et pour eux, c'était un charlatan, c'était quelqu'un qui disait n'importe quoi. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Eh bien, ils avaient aussi entendu que le corps avait été volé par les disciples. Donc, Jésus, le Messie, non. Eh bien, Pierre va leur dire, pas du tout. Jésus est vraiment ressuscité et sa résurrection prouve qu'il est le Messie. D'ailleurs, Pierre, ici, dans ce chapitre 2, dans le chapitre suivant, et dans quelques prédications qu'on trouve dans les Actes, on retrouve la même spécificité, les mêmes éléments dans le message. Il y a le premier qui va dire, Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu des Juifs, a envoyé son serviteur. Vous l'avez tué, Jésus-Christ. Rejetant le Saint, le Juste, vous avez rejeté le Prince de la vie. La deuxième chose qu'on trouve dans cette prédication comme dans les autres, Jésus n'est pas mort, il n'est pas resté dans la tombe. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il y avait des témoins de cela, les disciples par exemple. La troisième chose qu'on trouve, par la mort et la résurrection de Christ, Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites aux prophètes d'envoyer le Messie. Et quelle conclusion? Si vous avez tué le prophète, si vous avez tué le Messie, il faut vous repentir. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Alors, Pierre va leur dire ici la même chose, la vérité. Jésus est réellement ressuscité et sa résurrection prouve qu'il est le Messie. Et il va en fournir quatre preuves dans la suite des versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein de Dieu, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà. Jésus-Christ n'était pas un homme lambda, c'était une personne, et la main de Dieu était sur lui de sa naissance, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Et cela, c'est pas fait en cachette. Tout ça, les gens l'ont vu, et on peut voir ça dans Actes chapitre 26, verset 26, puisqu'il le dit, il leur dit là, et comme vous le savez vous-même, à la fin du verset 22, et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu, la main de Dieu était sur Jésus-Christ. Et de sa naissance jusqu'à sa résurrection. Enfin, il y a un deuxième élément qui prouve ce miracle, c'est la prophétie de David, le témoin, la prophétie de David des versets 25 à 31. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et voilà, Pierre explique que David ne parle pas de lui, mais il parle de quelqu'un de sa famille. Il parle de, comme il était prophète, on sait que Jésus-Christ est le fils de David, fils d'Abraham. Et donc, il y a quelqu'un plus grand que David, et c'est Jésus-Christ dont il parle ici. Voilà. Donc là, cette prophétie... On le dit au verset 31, c'est la résurrection, on peut le dire au verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il qui ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc c'est une deuxième preuve. Une troisième preuve, c'est le témoignage des croyants au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et enfin, la présence du Saint-Esprit est une preuve que Jésus est ressuscité, puisqu'il avait dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Conclusion, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre était rempli de hardiesse, rempli du Saint-Esprit parce que il n'y a pas quelque temps, Jésus était un imposteur et les disciples se sont cachés. Mais le Seigneur l'a fortifié, l'Esprit était là, il a prêché avec là, dans la puissance de l'Esprit. Et ça a tapé dans le cœur, puisqu'on voit ensuite, au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Vous vous rendez compte? Pierre leur dit, « Votre Messie, vous l'avez crucifié. Ah, » Comment réparer cette grande erreur? Est-ce qu'il y a encore une issue quand on a été des acteurs dans la crucifixion de Christ? Eh bien, après avoir dit pourquoi, avoir fourni les preuves de la résurrection de Christ et de la venue du Saint-Esprit, Pierre va leur expliquer pourquoi c'est arrivé. En fait, tout ça est arrivé pour sauver des pécheurs. Et on lit la suite, versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il dit, « Repentez-vous. » Les auditeurs de Pierre étaient quand même attachés à leur culture, à leur histoire, à leur religion. Ils sont aussi fortement attachés à la notion d'une nation juive. Ils ont rejeté Jésus-Christ, le Messie. Ils l'ont fait crucifier en leur disant « Repentez-vous ». Pierre les exhorte à changer de direction, à tourner le dos au judaïsme et à se saisir de Christ comme leur Messie. La Bible, dans certains versets de la Bible, on parle d'avoir de la foi comme condition de salut. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On parle, c'est la foi qui est en œuvre là. Dans Actes chapitre 16, on parle aussi de la foi. Verset 30, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Dans d'autres versets aussi. Mais la foi et la repentance sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas avoir la foi sans se repentir. Et on peut, prenez avec moi Ésaïe 55, versets 6 à 7, pour voir comment la foi, Ésaïe 55, la foi et la repentance sont liées ensemble. Alors, Ésaïe 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il nous est dit que le méchant abandonne sa voie, changez de direction, et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il nous demande de chercher l'Éternel. Et il est écrit là que nous allons le trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Et donc chercher l'Éternel, avoir la foi en lui, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc ça nous parle de la foi et en même temps la repentance, abandonner notre voie et nous tourner vers Dieu. Alors c'est ce qui était demandé là aux Juifs qui étaient attachés au judaïsme et qui avaient crucifié le Seigneur. Il leur a demandé, changer de direction, changer de pensée par rapport à Christ. Tournez le dos à tout cela et saisissez maintenant Christ comme votre Messie, comme votre Sauveur. Il leur dit aussi, repentez-vous et que chacun de vous, verset 38, soit baptisé. En les invitant à se faire baptiser, Pierre leur demande de témoigner publiquement de deux réalités, la rupture avec le judaïsme et enfin l'identification avec Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et nos frères, nos deux frères, sont passés par les eaux du baptême pour témoigner que désormais, Christ était leur Seigneur et Sauveur. Et le baptême y met cette réalité intérieure. Ils étaient morts avec Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Le baptême, c'est le témoignage public d'une réalité intérieure. C'est un pas d'obéissance important pour tous les croyants. Et devrait suivre la conversion. Repentez-vous et soyez baptisés. Dans l'Église primitive, le baptême est lié, tellement lié au salut, que Paul écrira, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout ça est lié. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Donc il était question de se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour le pardon de vos péchés. Le pardon des péchés, passé, présent, futur, c'est un privilège des croyants. C'est un privilège des croyants et c'est un grand sujet de joie. Quand nous prenons la scène, ça nous rappelle que nos péchés sont pardonnés. Parce que Christ a payé le prix fort. Ça nous rappelle que nous sommes réconciliés avec le Père et qu'un jour nous serons avec lui. Parce que nos péchés, il les a jetés loin derrière son dos. C'est un sujet de joie de quelques psaumes, et la sœur Yvette aimait bien ce psaume 103, qui parlait de... on peut prendre juste le début. Psaume 103, comme d'autres psaumes, hein, qui parle de ce pardon des péchés qui est si important. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pardon, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Toujours, combien c'est important pour le psalmiste de savoir que ses péchés sont pardonnés. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà. Le pardon des péchés, un sujet de joie, un privilège des croyants. Cette vérité est reprise dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur dit dans Matthieu 26, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » C'est le privilège des croyants. Luc rappelle aux disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, Luc chapitre 24, verset 47, et Paul écrit aux Éphésiens, « Qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et Jean dit, « Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Voilà un sujet de joie, 1 Jean chapitre 2, verset 12. Quand on lit la suite, on revient dans Actes chapitre 2, on voit que la bénédiction ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés. Mais il ajoute, à la fin du verset 38, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don gratuit et immérité n'est pas seulement pour les auditeurs de Pierre, parce que Pierre précise, verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les Juifs d'abord, avec les adultes, les enfants, ceux qui sont au loin, ce sont les païens. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La nation d'Israël et tous ceux qui sont loin, les non-Juifs. Alors, il nous est dit que ceux qui reçoivent l'Esprit sont ceux que le Seigneur appelle. Ça nous parle de la souveraineté de Dieu dans le salut. Mais, Dans la prophétie de Joël, au verset 21, on lisait « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La Bible parle des deux choses, la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Sans les mettre sur le même plan, et nous n'avons pas à les unir, mais les deux existent. Dieu est souverain, oui, mais chacun doit aussi répondre à l'appel de Dieu. Et Luc, enfin, exhorte ses auditeurs en leur disant, verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Le Seigneur avait déjà qualifié dans les évangiles cette génération comme étant une génération méchante et adultère. Dans Matthieu chapitre 12, verset 39, Matthieu chapitre 16, verset 4. Il avait qualifié cette génération comme étant une génération méchante dans Matthieu chapitre 12, 45, dans Luc aussi chapitre 11. Une race incrédule, Marc chapitre 9, verset 19. Une race incrédule et perverse, dans Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 9. Une génération adultère et pécheresse, Marc chapitre 8, verset 38. L'histoire nous apprend que beaucoup de personnes de cette génération vont périr pendant la révolte juive, dont le point culminant, bien sûr, va être lors de la destruction de Jérusalem en 70. Donc, quand Pierre les appelle à de se sauver de cette génération perverse, eh bien, fin du verset 40, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Et le verset 41 nous montre l'effet de la prédication de Pierre qui est conduit par l'esprit, non pas par la sagesse humaine, mais par l'esprit. Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors les auditeurs juifs, ils devaient se repentir, ils devaient tourner leur dos à leur culture, au risque d'être rejetés par leurs proches, par la famille, par la société. Ils devaient accepter Jésus-Christ comme Messie, alors que les chefs religieux avaient rejeté Jésus-Christ, l'avaient exécuté. Il risquait d'être mis au banc de la société aussi. Eh bien, malgré tous les dangers que cela pouvait comporter, ils n'ont pas hésité à s'identifier publiquement à Christ, puisqu'ils se sont fait, ce jour-là, ça n'a pas tardé, ce jour-là, ils acceptèrent sa parole et ils furent baptisés. Voilà, ces hommes n'ont pas hésité à tout laisser de côté pour suivre le Seigneur, pour accepter Jésus-Christ comme le Seigneur. Et ça leur coûtait la vie. Et ça a coûté la vie à beaucoup, ça a coûté leur maison, leur travail. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il pour nous? Qu'est-ce que représente Jésus-Christ pour nous? Est-ce que nous pouvons nous aussi dire « J'ai tout quitté pour se suivre, j'ai laissé ma morale, ma religion, parce que je sais que c'est toi seul qui peux me sauver, c'est toi le Messie, c'est toi qui m'unis dans le corps de Christ et c'est par ton sacrifice seul qu'on peut être sauvé. » Actes chapitre 4, verset 12, je vous lis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Eh bien, que le Seigneur vous aide à saisir cette parole et qu'il vous aide à avancer dans le chemin qu'il a pour vous.